Chapitre 6. Jean-Philippe. Il n'avait pas envie de venir. Il était prêt à trouver un prétexte, un voyage à l'étranger, n'importe quoi, pour y échapper. Mais elle a insisté. « C'est la fille de ton frère, tout de même. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? Jean-Philippe, on ne peut pas continuer à se couper de tout le monde comme ça. Tu sais bien qu'on ne va pas se sentir à l'aise. Parle pour toi. Eh ben... on peut dire que tu n'es pas rancunière après tout ce que tu as entendu. » Elle a eu un petit geste d'agacement. « Je ne vois pas pourquoi tu dis ça. En l'occurrence, Catherine et Pierre ont toujours été très gentils avec moi. » Il a marmonné quelques phrases incompréhensibles, comme chaque fois qu'il ne trouve rien à répondre. De toute façon, qu'est-ce qu'il pouvait lui dire ? Il l'a prise dans ses bras et l'a embrassée. Elle est meilleure que lui. Sa jolie femme blonde au cœur d'or. Elle lui a souri et a murmuré. « En fait, depuis la mort de ta mère, ça me fait plaisir de voir ta famille. » Aujourd'hui, il est de mauvais poil. Il lui en veut d'avoir insisté pour venir, et il s'en veut d'avoir cédé. Il a commencé par lui reprocher le temps qu'elle passait à se préparer. Il lui a même fait une remarque désobligeante sur la profondeur de son décolleté. « Dis donc, je te rappelle qu'on était ensemble pour choisir la robe. Ça n'avait pas l'air de te déranger le jour où on l'a achetée. » C'est vrai, ça ne le dérangeait pas, et même, ça lui plaisait. Mais aujourd'hui, c'est différent. Il est agacé de l'avoir porté cette tenue et se maquiller comme si elle s'apprêtait à séduire tous les hommes de la soirée. Il se sent nerveux. Il n'y peut rien. Il la regarde mettre son rouge à lèvres, précise et concentrée. Il suit le tracé du bâton de rouge contre sa bouche. Pour qui tu te fais belle comme ça, hein ? Comme si elle répondait à la question qu'il n'a pas posée, elle lui jette dans le miroir un regard de reproche. À présent, les voici à table en compagnie d'Isabelle, la sœur de Catherine, flanquée de son mari cardiologue et de deux autres couples qu'ils ne connaissent pas. Jean-Philippe regarde ces dames. Elles ont toutes entre 50 et 60 ans. Elles portent des tailleurs chics coordonnés à leurs chaussures ou à leurs sacs à main. Pas un cheveu ne dépasse. Elles sont parfaites. Elles ont même eu le temps de se repoudrer avant de passer à table. Elles sont souriantes, prêtes pour les amabilités, mais il y a en elles une sorte de sécheresse et de lassitude. Ces femmes ne sont plus amoureuses de leur mari. C'est une évidence. Au milieu d'elles, il est frappé par l'éclat de Sylvie. Sa robe lui va divinement. Le décolleté met ses seins en valeur. Ils n'ont pas bougé depuis qu'elle les a fait refaire il y a 10 ans. Elle ne fait pas ses 55 ans. Elle est magnifique. Il est fier de sa femme. Il est aussi vaguement inquiet de la voir si blonde et rayonnante au milieu de ces dames à l'élégance convenue. Il est parfois jaloux au point d'en être odieux. Aujourd'hui, il n'a fait aucun effort pour lui être agréable. Il lui a fait payer d'être si belle et de l'avoir traînée à ce fichu mariage. Se retrouver à cette table n'améliore pas son humeur. Il devine ce que ces gens pensent de son épouse. Mon Dieu! Comme cette femme est vulgaire. Dire qu'il va falloir passer toute une soirée avec une femme aussi vulgaire. Isabelle et son cardiologue se demandent « Mais pourquoi Catherine nous a-t-elle placés avec Jean-Philippe et sa femme ? Qu'est-ce qu'on peut bien avoir à dire à ces gens-là ? » Il le sait. Il le sent. De l'autre côté de la table, Sylvie le regarde avec une intensité presque menaçante. Elle aussi, il devine ce qu'elle pense. « Chérie, reste calme. » « Fais-moi plaisir, sois charmant durant tout le dîner. » Isabelle a pris un sacré coup de vieux depuis la dernière fois. Il s'en réjouit intérieurement. Il lui dit « Isabelle, vous avez une mine superbe. »« Ah bon ?» répond-elle, l'air surpris. « Ça me fait plaisir de l'entendre parce que je suis assez fatiguée en ce moment avec la préparation du mariage de Thibault. » »« Oui, Pierre m'a dit ça, que Thibault faisait un grand mariage. » Il essaie de prononcer la phrase sans sourire, tandis que Sylvie, de l'autre côté, lui lance un regard noir. Mais Isabelle n'a pas perçu l'ironie du propos. Elle répond « Oui », d'une voix un peu étranglée, presque comme s'il s'agissait d'un secret honteux. Son mari intervient. « La vérité, c'est qu'Isabelle s'impose un régime drastique qui la met sur les rotules », claironne-t-il. Isabelle rougit. Des yeux, elle supplie son mari de ne pas en dire davantage. Il poursuit en la fixant, goguenard. « Un régime protéiné. 2 kilos perdus en 2 mois. Du blanc de dinde le matin au petit déjeuner. Je vous laisse imaginer combien c'est agréable lorsque vous êtes assis juste en face. »
Sylvie intervient. « Vous devriez être content que votre femme fasse des efforts pour être belle au lieu de la taquiner avec son régime. »
Il lève un sourcil, la dévisage en homme qui n'a pas l'habitude d'être contredit et lance.
« Je n'y suis pour rien, croyez-moi. En fait, Isabelle se prépare pour le mariage, dans 15 jours. »
Il n'est visiblement pas peu fier d'évoquer l'événement. Son fils épouse une jeune fille de très bonne famille, le produit d'une alliance réussie entre grande bourgeoisie parisienne et vieille aristocratie bretonne. C'est ce qu'on appelle un « grand mariage ». Le mari d'Isabelle ajoute en souriant.
« La future belle-mère de notre fils est une femme absolument superbe. N'est-ce pas, chérie ?»
Pétrifiée, Isabelle répète.
« Oui, c'est une femme absolument superbe. »
Jean-Philippe voit de fines gouttes de sueur perler à ses tempes. Elle encaisse. Elle résiste tant bien que mal à l'humiliation que son mari vient de lui infliger. Il regarde le cardiologue.
« Mais votre épouse est superbe, elle aussi. »
L'autre répond en souriant.
« Mais bien sûr, tout le monde ici en convient !»
Isabelle tourne vers Jean-Philippe un regard plein de reconnaissance. S'il avait su qu'un jour il dirait à cette conne qu'elle est une femme superbe. Après cet incident, chacun prend soin de maintenir la conversation sur des sujets généraux et inoffensifs. Ils ont tous beaucoup voyagé. Le récit de leurs différents périples parvient à occuper pratiquement toute la durée du dîner. Isabelle se risque de temps en temps à raconter une anecdote. Son mari la reprend sans cesse et n'hésite pas à lui adresser des réflexions cinglantes pour un détail erroné, une date oubliée. Docile, Isabelle prend acte de chaque remarque. Elle semble ragaillardie chaque fois que son mari lui fait l'aumône d'un sourire condescendant ou s'abstient de la reprendre. Jean-Philippe regarde sa montre. Il pense...
Au dessert, je me le fais, cet abruti.
Une demi-heure plus tard, la pièce montée est servie. Isabelle a encore vieilli depuis le début du dîner. Elle est ratatinée sur son siège, comme si elle voulait disparaître sous terre. Elle murmure.
Jean-Philippe, vous voulez ma part de pièce montée ?
Il sait qu'il ne devrait pas accepter. Sylvie le lui dit assez souvent, il doit se surveiller. Il accepte malgré tout, par gourmandise, parce qu'il ne veut pas laisser Isabelle en tête-à-tête avec ses choux à la crème. Et aussi pour contrarier sa femme qui lui lance un regard courroucé. Mais elle n'osera pas lui faire une remarque devant les autres convives pour un péché aussi véniel. Au café, tout le monde se détend. C'est presque fini. À eux huit, ils ont fait 3 ou 4 fois le tour du monde. Avec la conversation de ce soir, on pourrait rédiger un guide touristique truffé d'anecdotes piquantes et de fines observations ethnologiques. Depuis un moment, Jean-Philippe guette sa proie. Il attend le moment propice. Il devine que l'occasion ne va pas tarder à se présenter. C'est la dame assise à la droite du cardiologue qui la lui fournit sans le vouloir. Désireuse de relancer la conversation qui s'étiole depuis quelques minutes, elle aborde le sujet par excellence, celui par lequel on aurait dû commencer, en vérité. Elle demande à son voisin.
« Et que faites-vous dans la vie, cher monsieur ?»
L'autre se rengorge et répond d'un air suffisant.
« Je gagne l'argent que ma femme et mes filles dépensent avec constance. »
Tout le monde rit poliment. Satisfait de son bon mot, le mari d'Isabelle ajoute sur le ton de la confidence en se penchant un peu vers la dame.
« Je suis cardiologue. »
Et la dame fait « Oh !» en le regardant avec de grands yeux admiratifs. « Comme c'est intéressant !» C'est alors qu'intervient Jean-Philippe. « Vous avez raison, madame, c'est intéressant. Et en plus, on se fait un max de blé !» Tous les regards se tournent vers lui, interloqués.
« Je vous demande pardon ?»«
J'explique à madame que vous gagnez un tas de pognon. C'est bien ça, n'est-ce pas ? C'est bien ce que vous lui avez répondu avant de lui préciser que vous étiez cardiologue. Vous avez éveillé ma curiosité. Ça se monte à combien, précisément ?»
Tout le monde en a le souffle coupé. Isabelle est comme paralysée, la tasse à café au bord des lèvres. La voisine du cardiologue est toute congestionnée. Le cardiologue le toise. Une question de si mauvais goût lui donne le droit d'afficher son mépris pour celui qui la pose. Il hésite d'autant moins qu'il sait le peu de considération dont jouissent Jean-Philippe et sa femme au sein de la famille Clouet. Il répond d'une voix qui s'efforce de rester calme.
« J'ai des revenus en rapport avec mes qualifications, mes années d'expérience, les énormes investissements nécessaires à la marche du cabinet et le coût exorbitant des assurances. »
« Des revenus énormes et exorbitants, donc... »
Un silence de mort règne autour de la table. Tous les convives sont figés, comme en plein cauchemar. Sylvie a l'air furieuse.
Isabelle, j'espère que vous excuserez Jean-Philippe. Vous connaissez sa mufflerie naturelle.
Isabelle fait « oui, oui » abasourdie. Le cardiologue a comme un haut-le-corps. Jean-Philippe regarde sa femme. Elle s'est bien gardée la fine mouche de l'excuser auprès de Monsieur Con. C'est à Isabelle qu'elle s'est adressée. Il lui sourit pour la féliciter. Mais elle le foudroie du regard. C'est alors que s'ouvre le bal, heureuse diversion. Chacun est soulagé de pouvoir regarder ailleurs. Isabelle en profite pour se lever, en s'excusant de les abandonner quelques instants.
« Vas-y ma cocotte, prends le temps de te remettre. »
Jean-Philippe déplace sa chaise et tourne ostensiblement le dos aux autres convives. Pour ce soir, il a usé sa réserve de politesse. Son frère valse avec Bérangère. Il est si svelte qu'on pourrait presque le prendre pour le marier. Ils étaient assez proches autrefois. C'est bizarre, comme la vie peut mettre de la distance entre les êtres. Depuis son mariage, Jean-Philippe a laissé les liens se défaire peu à peu. D'un certain côté, il le regrette, mais il n'a pas l'impression d'avoir eu le choix. Il sait que sa famille n'a jamais accepté Sylvie, peut-être à cause de ce qu'ils appellent sa vulgarité. Chez les cloués, c'est une faute qu'on ne pardonne pas. Peut-être en réalité parce qu'elle est trop belle pour eux. De toute façon, ce qui est fait est fait. Peu importe à présent pourquoi les choses se sont passées ainsi, et pas autrement. Malgré tout, il doit le reconnaître, Pierre et Catherine se sont toujours montrés courtois envers Sylvie. C'est pour cela qu'elle les aime bien. Mais lui n'est pas dupe. Il connaît Catherine. Élégante, toujours élégante, jusque dans son mépris. Il regarde danser son frère et sa très jolie nièce, et se dit qu'il aurait eu une toute autre vie si, comme Pierre, il s'était marié avec une jeune fille de son milieu. Il se souvient du jour où il a annoncé à ses parents sa décision d'épouser Sylvie, la fille d'un ouvrier et d'une femme de ménage. Sa mère criant qu'il n'était pas question qu'il se marie avec une fille qui sort du ruisseau. Son père le priant, plus sobrement, de bien vouloir reconsidérer sa décision concernant cette personne. Il parlait d'une jeune femme qu'il n'avait même pas rencontrée. En pensant à tout ça, il ne peut réprimer un sourire amer. Il fixe sur les tables les petits bouquets ronds de roses et de feuillages. C'est avec des roses rouges qu'il l'a séduite. À l'époque, il était l'enfant terrible de la famille et faisait le désespoir de ses parents. Il avait abandonné le lycée avant le bac, logé dans un studio sans chauffage appartenant à sa famille, et vivait de petits boulots en attendant de conquérir le monde. Il se levait à 4h du matin pour aller acheter, chez un grossiste, des brassées de roses qu'il vendait le soir dans les restaurants. Quand il a poussé la porte, il a d'abord cru qu'elle était une cliente. Elle portait une robe noire sans manches au-dessus du genou et un chignon énorme, comme c'était la mode à l'époque. De grands yeux bleus, un sourire éclatant. Elle ressemblait à une actrice de cinéma. Sa gorge s'est serrée. Ses mains sont devenues moites. Il s'est senti minable avec ses brassées de roses enveloppées de papier transparent. Et puis il a vu la jeune femme passer derrière le comptoir et se mettre à feuilleter une liasse d'additions, et son cœur a bondi. Ce n'était pas une cliente. Elle travaillait ici. Elle était hôtesse dans ce restaurant. Il a marché vers elle pour la saluer, lui parler de son arrangement avec le patron pour la vente des roses. Elle a répondu dans un sourire « Oui, oui, je suis au courant. » Il a avalé péniblement sa salive, puis lui a tendu une rose. Elle a souri. « C'est très gentil, merci. » « Si vous me dites quand vous acceptez de dîner avec moi, je promets de vous en offrir une chaque jour. » Il l'a vue se rembrunir, esquisser un petit sourire là, plonger le nez dans son registre. Elle a répondu sans le regarder. « Je ne suis pas le genre de fille que vous croyez. » Claire, nette, sans appel. Il a senti son cœur se tordre. « Je vous demande pardon. Je ne voulais pas vous blesser. » Il a baissé les yeux et il a aperçu 4 ou 5 cartes de visite chiffonnées au fond d'une corbeille à papier à côté du comptoir. Il est parti, sans même faire le tour des tables pour vendre ses roses. Quand il a poussé la porte du restaurant, le jour suivant, elle a fait mine d'être très occupée derrière son comptoir pour ne pas avoir à le saluer. Pendant qu'il vendait ses roses, elle ne l'a pas regardé. En partant, il en a déposé une pour elle sur le comptoir, et elle n'a pas levé les yeux. Le lendemain, tout s'est passé de la même façon, mais lorsqu'il a déposé la rose sur le comptoir, elle a dit « Merci », sans le regarder. Le surlendemain, elle a dit « Merci », en le regardant. Le jour d'après, lorsqu'elle lui a dit « Merci », il lui a tendu une carte de visite en précisant «
C'est juste pour que vous sachiez mon nom. Vous pourrez la jeter à la corbeille après, si vous voulez. » Elle a souri. Les autres jours, ils ont échangé quelques phrases banales au moment où il lui offrait la rose. Il n'a pas osé lui demander si, finalement, elle avait jeté sa carte. Au bout de 3 semaines, il a pris le risque de lui dire, en prenant un air détaché malgré l'angoisse qui l'étreignait, que son invitation à dîner tenait toujours. Elle a souri, mais n'a rien répondu. Il ne sait pas combien de temps ce petit jeu aurait duré si le destin ne s'en était mêlé. Le destin, qui lui a donné un solide coup de pouce, ou plutôt une grande tape dans le dos, un matin d'hiver où il arpentait le trottoir verglacé, chargé d'une énorme brassée de roses. Il n'a jamais compris comment il s'était retrouvé par terre, à se tordre de douleur au milieu de ses roses éparpillées. Entorse de la cheville, plâtre pendant 1 mois, et retour au bercail du fils prodigue pour sa convalescence. Assez de temps pour confirmer ce qu'il savait déjà. Il ne supportait pas sa famille. Il était fou amoureux de la jeune femme du restaurant. Lorsque, au bout 1 mois, il s'est retrouvé sur pied, il ne pensait qu'à une chose, la convaincre de sortir avec lui. Le soir suivant, il s'est présenté au restaurant, avec dans la tête des phrases apprises par cœur et longtemps répétées. Lorsqu'elle l'a aperçu, elle s'est figée, toute pâle, derrière son comptoir. Il a fait le tour des tables en prenant bien son temps, appréhendant le moment où il faudrait lui parler. Et puis, en passant devant elle, il a été pris de panique. Il a senti qu'il n'y arriverait pas. Il est sorti très vite, sans déposer de rose sur le comptoir, après avoir bredouillé un « bonsoir » inaudible. Sur le trottoir, à l'air libre, il est resté un moment immobile, enrageant de n'avoir pas trouvé le courage de lui parler. Il a entendu la porte s'ouvrir derrière lui. C'était elle, avec sa petite robe sans manches, dans le froid de la nuit. « Qu'est-il arrivé? Où étiez-vous passé ?» Il a dit « Qu'est-ce que ça peut bien vous faire, de toute façon ?» avant d'ajouter « J'ai eu un accident. »«
Un accident ? » a-t-elle répété d'une toute petite voix. « C'était un accident ?»
« Oui, c'est pour ça que je ne suis pas venu ces dernières semaines. »«
Ah, c'est pour ça ?»
Elle s'était forcée de sourire, sans oser lui en demander plus. Elle tremblait de froid. Il lui a dit d'un ton assez brusque « Vous devriez rentrer, habillée comme vous l'êtes. » Elle l'a regardé, et a bredouillé, un peu confuse et un peu triste. « Oui, oui, vous avez raison. » Et puis, au moment où elle se détournait pour partir, il ne sait pas ce qu'il lui a pris. Il a jeté toutes ses roses sur le trottoir. Il l'a retenue par le bras et il l'a attirée contre lui. Elle n'a pas résisté. Elle a pris son visage entre ses mains glacées et elle l'a embrassé. Et il s'est dit que pour un tel baiser, ça ne faisait rien d'avoir attendu si longtemps. Bien des nuits plus tard, elle lui a avoué qu'elle l'avait tout de suite trouvé séduisant et qu'en le revoyant chaque soir, elle était vraiment tombée amoureuse.
« Pourquoi tu m'as fait attendre 2 mois dans ce cas ?»«
Le mois où tu n'es pas venu, ça ne compte pas. » »«
Bon, bon. » « Parlons des 3 semaines avant mon accident alors. Pourquoi tu as laissé s'écouler cette éternité sans même un petit signe d'encouragement ?»
Elle a ri.
« Une éternité, 3 semaines ?»«
Si tu dis que je t'ai plu tout de suite, 3 semaines c'est déjà trop. Sérieusement, pourquoi tu étais si froide alors que je te plaisais ?»«
Je ne voulais pas que tu penses que j'étais une fille facile. D'ailleurs, 3 semaines ce n'est rien. J'aurais voulu te faire attendre plus longtemps, mais quand j'ai vu que tu ne venais plus... J'ai cru que tu t'étais lassé, que je t'avais découragé. Comme une idiote, j'avais jeté ta carte. Tu ne peux pas savoir à quel point je m'en suis voulu. J'ai passé 1 mois à me maudire en pensant que je ne te reverrais plus. Lorsque tu es revenu, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Et lorsque tu es sorti sans m'adresser la parole et sans m'offrir de rose, j'ai su qu'il fallait absolument que j'aille te parler. Je ne voulais pas prendre le risque de te laisser partir à nouveau. »
Elle lui a dit ça très gravement. Elle lui a dit ça toute nue, très belle, ses cheveux blonds défaits étalés sur ses seins. Pendant qu'elle parlait, il la regardait dans les yeux, dans ses beaux yeux bleus, et il la caressait. C'est là, en la regardant, qu'il a compris qu'elle était la femme de sa vie. De son passé et de sa famille, il sait peu de choses. Sylvie n'a jamais aimé en parler. À un moment, il a cru qu'elle avait honte de ses parents, de son milieu modeste. Mais non, ce n'est pas ça. Il a l'impression que ce passé éveille en elle une souffrance qu'elle essaie d'oublier. La première fois que Sylvie a parlé de lui à ses parents, son père l'a giflé et l'a mise à la porte en la traitant de pute à bourgeois. Pendant qu'elle dévalait l'escalier, il hurlait penché sur la rampe.
« Tu les as vus, les mains de ta mère ? À 14 ans, elle faisait la boniche chez des gens comme ça. T'es plus ma fille, t'entends ? Remets plus les pieds chez moi !»
Elle a continué de descendre aussi vite qu'elle pouvait, tête baissée, tandis que tout là-haut, la voix de son père se brisait dans un sanglot.
« Tu les as vues, les mains de ta mère !»
Le soir, elle a tout raconté à Jean-Philippe. Et puis, comme pour excuser son père, elle a parlé des mains de sa mère, si rêches, si crevassées qu'elle ne se risquait plus à donner de caresses. Elle pleurait sans pouvoir s'arrêter. Alors il lui a demandé, comme si c'était la seule chose qui puisse véritablement la réconforter, si elle voulait bien être sa femme. Plus tard, elle lui a avoué que son père avait un problème avec l'alcool. « Il a eu une vie difficile. Si difficile, disait-elle. Il faut comprendre. On ne peut pas lui jeter la pierre. » Lorsqu'il avait bu, il devenait violent. Il frappait, alors que d'habitude, il n'était pas méchant. Ça a duré pendant toute son enfance et son adolescence, jusqu'à ce qu'elle s'en aille. C'est à cause de ça qu'elle a dû arrêter l'école et travailler si jeune. À la voir si belle, on n'imaginerait pas tout ce qu'elle a souffert. Il s'est promis de la rendre heureuse. Sylvie a voulu une cérémonie à l'église. Elle est catholique. Sa mère l'a élevée comme ça, malgré son père qui bouffait du curé avec autant de hargne qu'il honnissait les bourgeois. Il a refusé d'assister au mariage de sa fille. Vu la différence de milieu et l'hostilité des parents, cela s'est fait dans l'intimité. Ce jour-là, Sylvie n'avait à ses côtés que sa mère, maigre et craintive, qui cachait ses bleus sous un grand manteau gris, et une vieille tante veuve de guerre, tout en noir. Sur les photographies, elles se tiennent serrées l'une contre l'autre à la sortie de l'église, comme pour se tenir chaud. Personne n'a pris la peine de leur adresser la parole. On ne voyait pas ce qu'on avait à leur dire. Elles ne sont pas restées pour le déjeuner. Elles sont rentrées retrouver le père de Sylvie. De toute façon, on ne les retenait pas. C'est la famille de Jean-Philippe qui a tout organisé et tout payé. Sur le parvis, Madame Clouet, née Hennebon de Kistinic, a eu un geste sublime. Elle s'est approchée, a tendu vers la mère de Sylvie une main gantée de chevreau clair et lui a dit en souriant avec bonté « Tout nous sépare, mais la prière nous a réunis. » La pauvre femme n'a su murmurer qu'un « Merci » d'une voix mourante, serrant brièvement la main de la grande dame, qui déjà se détournait et s'éloignait, altière, pour aller rejoindre sa famille. Il a senti Sylvie frissonner à ses côtés et une vague de tristesse mêlée de fureur froide la transit jusqu'aux os. « Tout nous sépare. » C'est ce jour-là qu'il a divorcé de sa famille. «